OA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 22 avril 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Michel Joseph. Tout d'abord, les titres.
Idriss Déby Itno, réélu dès le premier tour à l'élection présidentielle du 10 avril au Tchad.
En Gambie, 18 personnes, dont le chef de l'opposition arrêté le 16 avril, vont être poursuivies en justice.
Le président Barack Obama est à Londres pour discuter avec le premier ministre britannique David Cameron de la lutte contre le groupe État islamique.
Plus de 160 pays vont signer aujourd'hui au siège des Nations Unies à New York le traité international visant à ralentir le réchauffement de la planète.
Les États-Unis et les mélomanes du monde entier pleurent la mort de Prince, la grande icône de la musique moderne, décédée hier dans le Minnesota.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Nous aurons aussi en seconde partie une interview accordée à Jacques Aristide à New York par le nouveau président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, le président sortant Idriss Déby est réélu pour un cinquième mandat avec 61,56% des voix. C'est à l'issue de la publication du résultat de l'élection présidentielle du 10 avril dernier par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, hier à N'Djamena. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
Bien que contesté par une partie des organisations de la société civile, le président sortant Idriss Déby Itno vient de remporter cette élection haut les mains face aux 12 candidats qui se réclament tous de l'opposition. La Commission électorale nationale indépendante le déclare gagnant au premier tour avec 61,56%. Il a raclé le vote de l'étranger et arrive largement en tête dans 20 régions du Tchad sur 23, sauf dans les deux Logone et le Grand Mayo-Kébi où il a été mis en minorité par Saleh Kebzabo et Laouken Kouraïou-Médar. Ici, Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition, arrive très loin derrière avec 12,80%. Le maire de la ville de Moundou, Laouken Kouraïou-Médar, se contente de la troisième place avec 10,69%. L'ancien compagnon de Déby, Joseph Djimrangar Dadnadji, qui a démissionné du parti au pouvoir il y a un peu plus de 2 ans pour créer son propre parti, le Capsur, occupe le quatrième rang avec 5,6%. Le taux de participation, selon la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est de 76,11%. Résultat est provisoire et il appartient au Conseil constitutionnel de valider ou non, vu les multiples irrégularités relevées par l'opposition pendant le déroulement du vote. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
En Gambie, 18 personnes, dont le chef de l'opposition, arrêtées le 16 avril, sont maintenues en détention et elles vont être poursuivies en justice. Idriss Fall.
Les 18 opposants, dont Ousseynou Darboe, chef du Parti démocratique uni, UDP, doivent répondre de 6 chefs d'accusation, dont rassemblement illégal et incitation à la violence. Ils ont tous plaidé non coupables. Leurs avocats ont réclamé leur libération sous caution et le tribunal doit se prononcer la semaine prochaine. Ces opposants ont manifesté le 16 avril contre la mort en détention de Solo Sandeng, un responsable de l'UDP, arrêté 3 jours plus tôt pendant une manifestation pour réclamer des réformes politiques. Ce dernier est décédé pendant sa détention. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch et Article 19 ont appelé le régime de Banjul à mener une enquête sur la mort de l'opposant gambien. Yahya Jammeh, qui dirige d'une main de fer ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, est parvenu au pouvoir par un coup d'État sans effusion de sang en 1994. Il a été investi en février candidat de son parti pour briguer un cinquième mandat lors de la présidentielle de décembre.
Amnesty International accuse vendredi dans un rapport l'armée nigériane d'avoir tiré délibérément sur 350 musulmans d'une minorité chiite avant d'enterrer leurs corps dans des fosses communes et de détruire les preuves de ce carnage. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les 12 et 13 décembre, des affrontements s'étaient produits à Zaria, fief du mouvement islamique du Nigeria, IMN, dans la région de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Des membres de l'IMN en procession religieuse avaient bloqué le convoi du chef d'état-major des armées, le général Tukur Yusuf Baraté, provoquant une répression brutale de l'armée. Dans son rapport, Amnesty International juge sans fondement les allégations de l'armée selon lesquelles les partisans de l'IMN auraient tenté d'assassiner le général, une accusation formellement démentie par le groupe chiite. L'armée, qui a souvent été accusée d'abus à l'encontre des civils, dans sa lutte contre l'insurrection sunnite Boko Haram, maintient que ses troupes ont réagi à Zaria de manière appropriée. Selon elle, le chef chiite est en convalescence et le bilan des violences de Zaria ne dépasse pas les 7 morts.
En Guinée-Bissau, les écoles publiques sont paralysées par un mois de grève déclenchée par les enseignants. Ils réclament une amélioration des conditions salariales et de travail. Les détails avec Eddy Issango.
À Bissau, la capitale, il n'y a pas eu classe depuis mercredi dans les écoles primaires et secondaires. Et c'est pareil dans plusieurs villes du pays. Pour Lauriana Pereira, porte-parole des organisations syndicales qui ont appelé à cet arrêt de travail, les mouvements sont suivis à 100%. Les enseignants bissau-guinéens avaient déjà effectué un débrayage du 4 au 12 avril. Ils réclament une nouvelle grille des salaires et des meilleures conditions de travail. La ministre de l'Éducation nationale, Maria-Odette Semedo, avait fait état mercredi des difficultés financières qui ne permettent pas pour l'instant de satisfaire les revendications. Le budget 2016 n'est toujours pas approuvé à l'Assemblée et elle a appelé les enseignants à la patience. En attendant une solution, les parents d'élèves s'inquiètent face au risque d'une année blanche à cause de ces grèves à répétition.
La méningite cérébro-spinale à méningocoque, une maladie qui peut tuer en 24 heures, menace 450 millions d'Africains en 2016, ont alerté hier à Abidjan des spécialistes de 8 pays du continent. Davantage de détails avec John Linden.
La méningite à méningocoque est un fardeau mondial qui, selon les estimations, affecte chaque année 1,5 million de personnes et entraîne la mort de 135 000 d'entre elles, ont déclaré les médecins venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre, réunis sous l'égide du groupe pharmaceutique français Sanofi. 26 pays qui composent la ceinture africaine de la méningite, s'étendant du Sénégal à l'Éthiopie, où vivent 450 millions de personnes, peuvent être lourdement touchés par des épisodes épidémiques, ont-ils averti lors d'une conférence de presse appelant à une riposte efficace. Le professeur Mamadou Keïta Marouf du Mali a préconisé une campagne de vaccination de masse pour prévenir une maladie qui décimait pratiquement une génération. Pour la professeure Yé Ouattara Diarra, son homologue du Burkina Faso, pays au cœur de la ceinture, la méningite est devenue un problème de santé publique. Il faut donc mettre un accent sur la surveillance épidémiologique pour la détection précoce des cas.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama est à Londres pour des entretiens avec le premier ministre britannique David Cameron. À l'ordre du jour, la lutte contre le terrorisme, la crise des réfugiés en Europe et l'économie mondiale. Le chef de l'exécutif américain venait d'Arabie Saoudite où il a assisté à un sommet du Conseil de coopération du Golfe où les participants sont restés unis, a-t-il déclaré, dans leur effort pour détruire le groupe État islamique et stabiliser la situation au Moyen-Orient, une région minée par les conflits.
Les autorités américaines ont découvert ce qu'elles pensent être le plus long tunnel utilisé pour le trafic de drogue entre le Mexique et la Californie. Lionel Gahima.
Long de quelques 800 mètres, ce tunnel est équipé d'un ascenseur, d'éclairage, des rails et de systèmes de ventilation. Il relie une maison de Tijuana au Mexique à un terrain commercial d'Otay Mesa à San Diego, dans le sud de la Californie. La sortie était dissimulée derrière une benne à ordures. Les autorités ont retrouvé 743 kilos de cannabis dans le tunnel et près de 650 kilos dans la benne. L'enquête a conduit à l'arrestation de 6 personnes à San Diego et une saisie record de plus de 6 tonnes de marijuana et plus d'une tonne de cocaïne. Pour la procureure fédérale Laura Duffy, depuis la surface, peu de gens auraient soupçonné que des trafiquants transportés par ce trou autant de drogues valant des dizaines de millions de dollars. Il y a 6 mois, les autorités mexicaines et américaines avaient déjà démantelé un tunnel similaire dans la même zone.
Un premier pas aujourd'hui vers la ratification de l'accord de Paris sur le climat. Plus de 160 pays vont signer aujourd'hui au siège des Nations Unies à New York ce traité international qui vise à ralentir le réchauffement de la planète. Des détails avec Jacques Aristide.
Une grand-messe onusienne à laquelle doivent prendre part plus d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, de même que des dizaines de hauts responsables. Cette cérémonie de signature fait suite au succès de la conférence de Paris sur le climat en décembre dernier. Jamais un accord international n'aura été signé par autant de pays en un seul jour, a déclaré la ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, qui préside la COP21. Il s'agit de pays dont les intérêts divergent. Certains pauvres, d'autres très riches, d'autres producteurs d'énergie fossile, d'autres en guerre. Des pays unis néanmoins sur les dangers que posent les changements climatiques. Mais la partie est loin d'être gagnée. La signature d'aujourd'hui doit être suivie par une ratification, car pour entrer en vigueur, l'accord de Paris doit être ratifié par au moins 55 pays représentant ensemble au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
La Minute Éco, Anastasie Toudiech.
Installée en République démocratique du Congo depuis 2012, la société de téléphonie Orange a annoncé hier, jeudi 21 avril, avoir complété l'acquisition de 100% de l'opérateur télécom Tigo RDC, marque commerciale du luxembourgeois Millicom. Fin 2015, Orange comptait 110 millions d'abonnés dans la région Afrique et Moyen-Orient pour un chiffre d'affaires de 4,89 milliards d'euros. En Côte d'Ivoire, le gouvernement veut faire de la transformation de l'anacarde une priorité. Le pays est premier producteur depuis 2015 avec 702 510 tonnes. Selon l'agence APA News, les premières études confiées à un cabinet montrent l'existence de 1056 magasins de stockage, dont 266 sélectionnables qui nécessitent des réhabilitations d'environ 4 milliards de francs CFA. Toujours selon l'agence APA, le ministre congolais des Transports, Rodrigue Rodolphe Adada, est arrivé hier, jeudi, dans la capitale centrafricaine Bangui, où il a entamé avec son homologue centrafricain Théodore Jousseau des discussions sur les différents accords de coopération entre les deux pays dans le domaine des transports. La République centrafricaine dépend pour ses exportations du chemin de fer Congo-Océan qui relie Brazzaville à Pointe-Noire. La réactivation des accords de transport entre ces deux pays serait une bouffée d'oxygène pour l'économie centrafricaine, ces derniers temps très dépendante de la route entre Bangui et Garoua-Boulaye au Cameroun.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La CAF a procédé au tirage au sort des barrages d'accès aux poules de la Coupe de la Confédération.
Et oui, après son élimination en Ligue des Champions, le Stade malien affrontera le FUS de Rabat. Le tout-puissant Mazembe, le champion en titre, éliminé par le WAC de Casablanca, affrontera une autre équipe nord-africaine, en l'occurrence le Stade gabésien de Tunisie, Al Ahly Tripoli face au Misr El Makassa d'Égypte, et puis l'Espérance de Tunis contre Béjaïa, l'étoile du Sahel, l'autre grand club tunisien face au Gabonais du CF Mounana, Al Merrer du Soudan contre le CAC Marrakech, et puis le Sagrada Esperanza, le club angolais face aux Young Africans de Tanzanie. Enfin, les Mamelodi Sundowns, éliminés par l'AS Vita Club, rencontreront le Medeama du Ghana. Les matchs allés auront lieu du 6 au 8 mai prochain.
La flamme olympique ravivée.
Ouais, la flamme des Jeux Olympiques de Rio a été allumée conformément au rituel traditionnel hier sur le site grec d'Olympie, le berceau des Jeux de l'Antiquité et point de départ du relais à travers la Grèce puis le Brésil. Petit rappel historique Idrissa, ce rituel à l'antique avait été inauguré lors des Jeux hitlériens de Berlin en 1936. Il représente la symbolique olympique de la flamme datant de l'Antiquité quand un feu demeurait allumé à Olympie tout au long de la compétition. Et puis Idrissa, on revient ici aux États-Unis, le basket nord-américain, la NBA, c'est la période des playoffs.
Et c'était la grosse surprise, Nicolas, hier soir. Même avec l'absence de Steph Curry, Golden State a perdu hier soir face à Houston 97-96. Les Warriors continuent cependant de mener la série 2-1. 2-1 pour Oklahoma City aussi, qui a battu Dallas 131-102. Idem dans la série Toronto-Indiana pour Toronto qui a battu Indiana 101-85.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nos dossiers du jour. À présent, au Tchad, le résultat de l'élection présidentielle du 10 avril dernier est maintenant connu. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a hier déclaré gagnant, dès le premier tour, le président sortant Idriss Déby Itno face aux 12 candidats de l'opposition démocratique. Reportage d'André Kotmajingar.
Le résultat de votre mobilisation, c'est résultat provisoire, un chaos au premier tour avec 61%.
C'est le cri de joie du président Idriss Déby Itno qui vient d'être réélu au premier tour pour un cinquième mandat consécutif avec 61,56%. Il dépasse largement son principal opposant Saleh Kebzabo qui lui totalise 12,80%. Le maire de la ville de Moundou, capitale économique du Tchad, Laouken Kourayo Médar, arrive en troisième position avec 10,69%. De la place de la nation se tient en face de son palais rose où il suivait les résultats en direct à travers un écran géant. Idriss Déby Itno a dédié cette victoire à tout le peuple tchadien.
C'est votre victoire. Le peuple tchadien vient de nous dire que nous voulons poursuivre avec le candidat de tous ces jeunes et jeunes et de tout le peuple tchadien de tout horizon.
La joie et l'émotion de ces militants étaient à son comble. Des coups de fusil et le concert, des klaxons, des engins à deux et à quatre roues retentissent à travers les grandes artères et dans les bureaux de soutien. Idriss Déby Itno tente de calmer ses partisans.
Djeménois, attendons le résultat définitif qui va être proclamé dans le délai constitutionnel par le Conseil constitutionnel.
Selon la Commission électorale nationale indépendante, le taux de participation est de 76,11%. L'opposition n'a pas encore réagi. Reconnaîtra-t-elle la victoire du président sortant ou sa menace de former un gouvernement de salut national si la CENI lui déclare gagnant au premier tour reste en vigueur? Attendons de voir. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena au Tchad, 24 heures sur 24. 93.1 FM.
Entretien exclusif du nouveau président centrafricain à VOA Afrique, peu après sa rencontre hier soir avec le secrétaire général de l'ONU à New York. Faustin Archange Touadéra reconnaît que la situation économique et le problème sécuritaire restent difficiles en République centrafricaine. Son pays, dit-il, a besoin de la communauté internationale. Il affirme toutefois tenir compte de l'ensemble de la classe politique de son pays pour faire en sorte que les Centrafricains aient confiance dans le gouvernement pour les diriger vers la paix et la réconciliation nationale. Lors de son tête-à-tête hier avec Ban Ki-moon, il a évoqué le problème de l'embargo sur les armes et les accusations d'abus sexuels portées contre des casques bleus en RCA. Il en parle dans cet extrait de l'interview qu'il a accordé à Jacques Aristide. Nous écoutons Faustin Archange Touadéra.
Bien entendu, nous ne pouvons pas venir voir le secrétaire général sans parler de cette question. Comme vous le savez, dans très peu de temps, nous allons avec l'Union européenne et les Nations unies commencer la formation ou tout au moins la réforme du secteur sécurité. Évidemment, pour refonder donc notre armée, nous avons besoin que cet embargo soit levé ou tout au moins dans une mesure permettant justement de rendre opérationnels les éléments qui seront formés. Donc nous avons bien entendu abordé cette question. Et je pense que dans au prochain Conseil de sécurité, le problème peut-être sera posé, d'après ce que disait le secrétaire général.
Alors parlons maintenant des accusations d'abus sexuels des forces internationales. Que fait la justice centrafricaine à ce sujet? Quelle assistance est apportée aux victimes?
Vous savez, ces questions d'abus sexuels est une question grave qui touche toute la société, tous les Centrafricains sont touchés par cette situation. Mais ce que nous voulons, c'est que la justice soit rendue. Et qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport aux enquêtes qui sont menées, les autorités centrafricaines ne sont pas souvent associées à cela. Notre souhait, c'est ce que j'ai dit au secrétaire général, que s'il y a des cas qui sont avérés, que au moins nous soyons informés et que nous soyons associés à la recherche de la vérité à ce niveau-là. Nous allons aussi, compte tenu des dispositions actuelles concernant cette situation, faire aussi, dans le cadre bilatéral, discuter avec les pays contributeurs pour accélérer le processus, parce que dans les dispositions actuelles, la justice ne pourrait se faire que par rapport aux pays contributeurs. Donc au jour d'aujourd'hui, les choses traînent un peu à ce niveau-là. Nous allons sensibiliser nos amis, ceux qui ont contribué au niveau des forces, pour que la procédure soit accélérée, pour que la justice soit rendue à ces victimes.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Et bien entendu, c'était le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, interviewé au siège de l'ONU à New York. Cet entretien sur voaafrique.com. Maintenant, la Côte d'Ivoire, la Cour suprême a rejeté hier le pourvoi en cassation de Simone Gbagbo, ouvrant définitivement la voie à son procès pour crime contre l'humanité. L'avocat qui assure la défense de l'ex-première dame ivoirienne, Maître Rodrigue Dadier, s'est dit profondément déçu d'une décision qu'il qualifie de politique. Au micro d'Éric Manirakiza, il relève les vices de procédure et dénonce, selon lui, la dépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif.
J'ai été déçu parce que j'attendais beaucoup mieux de la Cour suprême. J'attendais qu'elle soit la Cour suprême, la haute cour qui statue en droit. Malheureusement, sous la pression du pouvoir politique, elle a préféré rendre une décision politique. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, depuis la fin de la crise, la justice ivoirienne est complètement apeurée. Les magistrats sont apeurés et ne veulent rendre aucune décision qui peut contrarier le pouvoir politique. Voilà la réalité. Soit parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur poste, soit parce qu'ils n'ont pas envie de subir la faute du pouvoir politique. La dernière cour d'assises de Mme Gbagbo, elle a été condamnée pour 20 ans. Toute l'opinion nationale et internationale a bien vu que le dossier était vide et qu'il n'y avait aucun élément qui accablait Mme Gbagbo. Mais malgré qu'il n'y a aucun élément qui l'accable et que nous avons largement démontré son innocence, elle a été quand même condamnée à 20 ans de prison. C'est complètement aberrant, mais c'est la réalité. Mieux, la cour d'assises n'aurait jamais dû se réunir parce que l'arrêt de la chambre d'accusation avait fait l'objet d'un pouvoir en cassation. La cour d'assises est passée outre cette règle de droit là, qui est d'ordre public, pour pouvoir quand même statuer. Bon, franchement, je me dis à un moment, je comprends, il y a la volonté du pouvoir politique de condamner les pauvres Gbagbo pour ce qu'ils n'ont pas eu à faire, notamment Mme Gbagbo. Et si ça peut leur faire plaisir, mais tant mieux.
L'affaire pendante vise à rejuger une affaire déjà jugée.
Non. C'est pourquoi elle a été condamnée à 20 ans dans le cadre des crimes d'attentat à la sécurité de l'État et à la défense de l'État. Maintenant, suite à la décision de la Cour suprême aujourd'hui de rejeter ma demande en rétractation, ce rejet-là donne force complète à l'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoyait Mme Gbagbo devant la cour d'assises pour être jugée pour crime de sang. Donc notamment, dans les jours ou semaines à venir, il va y avoir un procès en assises qui va s'ouvrir contre Mme Gbagbo pour les crimes de sang.
C'était Maître Rodrigue Dadier, joint à Abidjan par Éric Manirakiza.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
En Mauritanie se tient le procès en appel de Mohamed Khaitir à Ouagadougou. Le blogueur de 33 ans a été condamné à mort en décembre 2014 après une année en détention provisoire. Il avait écrit un blog critiquant ceux qui utilisent l'islam pour justifier les castes. Il est la première personne condamnée à mort pour apostasie dans ce pays. Amnesty International demande l'annulation de la peine et sa libération. En Mauritanie même, l'affaire ne fait pas trop de bruit. Idriss Fall a recueilli la réaction de Siré Ba, un Mauritanien exilé en France.
Ceux qui sont censés défendre ont reçu des menaces de mort avérées de la part de personnes qui se croient détenteurs de la vérité. et surtout qui se croient défenseurs de l'islam. C'est dans ce sens que, après la condamnation à mort du jeune Khaïti et l'appel aujourd'hui, ça se passera à huis clos. C'est simplement la capitulation des libertés de la démocratie en Mauritanie. Et ceci n'est pas étonnant quand on sait que le régime du président Mohamed Abdelaziz, qui a commis un génocide à l'égard des Noirs de Mauritanie, joue un peu sur cette fibre-là. Il joue double jeu avec la mouvance islamiste. Là, aujourd'hui, pour lui, il s'agit de montrer que, voilà, il assure les intérêts des islamistes. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui en appel à Noisy-Vous se fera. Le Mkhaïti, qui a été condamné à mort en première instance, les avocats, bien sûr, ont bien compris que les menaces de mort sont avérées. Ils ne veulent pas risquer leur vie parce que c'est l'État qui devrait en fait protéger les libertés. Mais l'État a laissé faire. Ça émeut évidemment la population parce qu'il s'agit de peine de mort qui a été prononcée à l'égard d'un citoyen qui réclame plus de justice pour une communauté, pour des problèmes de caste, pour des problèmes de société qui sont justes.
Mais c'est la première peine de mort, mais la peine de mort elle-même n'a jamais été appliquée en Mauritanie.
Tout à fait, mais comme l'enjeu aujourd'hui pour le président, comme je l'avais dit, Mohamed Abdelaziz, est de taille, on lui prête l'intention de vous abriguer un troisième mandat, qui veut avoir de son côté à la fois les puristes de l'islam et... Donc c'est un enjeu pour lui et il joue sur cette fibre-là. Mais c'est terrible et c'est inadmissible. C'est inadmissible que le jeune, Wulm Khaïtir, qui n'a fait que décrire en fait, des faits de société qui existe, à savoir les discriminations faites aux forgerons, qu'il soit condamné à mort alors qu'on sait très bien qu'il y a eu des crimes économiques, qu'il y a eu des choses qui ont été faites beaucoup plus graves que ça. Les gens ont été amnistiés ou libérés ou simplement acquittés.
Siré Ba, un Mauritanien exilé en France. Purple Rain, le titre de l'album et la musique du film du même nom en 1984, qui a valu un Oscar à la grande vedette de la chanson américaine, Prince, qui est décédé hier chez lui près de Minneapolis dans le Minnesota à l'âge de 57 ans. Aujourd'hui, le monde a perdu une icône créatrice, a salué le président Barack Obama. Peu d'artistes ont autant influencé le son et la direction de la musique populaire ou touché autant de gens de leur talent. Le shérif du comté où réside Prince a tweeté que le chanteur a été retrouvé mort à son domicile de Paisley Park. Une enquête a été ouverte. Le chanteur avait été hospitalisé d'urgence le 15 avril pour une grippe. Roger Muntu revient sur la carrière de Prince.
Un des musiciens pop le plus doué de sa génération, Prince s'est hissé durant les années 80 parmi les vedettes incontestées de la musique aux côtés de Michael Jackson, Bruce Springsteen et Madonna. Auteur, compositeur, interprète, réalisateur, artistique et producteur américain de pop, de funk, de rock et de R&B contemporain, il fut également danseur et acteur. Il a vendu, selon les estimations, entre 61 et plus de 80 millions de disques dans le monde. Sa carrière entamée en 1970 est l'une de plus denses dans l'univers de la pop, avec plus de 30 recueils studio parus en moins de 40 ans. Il faut ajouter de nombreux albums et chansons façonnées pour les Bengals, Shima Easton, Chaka Khan, Patti LaBelle, Madonna, Sheila, Mavis Staples ou The Time. Son plus gros succès commercial est la bande originale du film Purple Rain, dans lequel il joue le rôle titre, publié en 1984 et vendu à 20 millions d'exemplaires. Il est également l'auteur de Sign, The Times, des chansons de Batman, de Tim Burton, des tubes Little Red Corvette, When Doves Cry, Kiss Scream ou encore Sexy MF. Le morceau phare de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Sa carrière s'étend principalement des 1982 à 1994 de l'album 1999 à la chanson The Most Beautiful Girl in the World. Prince connaît un regain de popularité à partir de 2004, année de son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame et de parution du recueil Musicology écoulé à 2 millions de copies aux États-Unis. Il va beaucoup manquer à ses milliers de fans répandus dans le monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.